France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans À la Régulière, l'émission de toutes les cultures. Et aujourd'hui, on s'en va du côté de l'Espagne parce que une des stars les plus fascinantes de ces dernières années est de retour. Rosalía publie demain un nouvel album intitulé Lux, un disque très attendu, forcément après le raz-de-marée que fut Motomami. Depuis ses débuts flamenco jusqu'à ses expérimentations les plus avant-gardistes, Rosalía a toujours brouillé les frontières entre les genres, entre la tradition et la pop mondiale, entre la rue et la haute couture. Avec Lux, elle semble chercher une forme d'apaisement, de lumière, sans renoncer à cette intensité qui fait d'elle une artiste unique. On va en parler longuement avec elle puisque Rosalía sera mon invitée dans la deuxième partie de l'émission, mais avant, nous aurons une discussion autour de son parcours, de son influence et de ce qu'elle représente aujourd'hui avec la journaliste et créatrice de contenu Natasha Núñez. Rosalía, la lumière après la tempête ou une nouvelle révolution en marche? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble à la régulière.
France Inter. À la régulière. Mehdi Maizi.
Natacha, comment ça va?
Ça va et toi? Merci pour l'invitation.
Bah avec grand plaisir, merci d'être là. Bah t'es là parce que tu connais bien la musique de Rosalía.
J'aime beaucoup en tout cas.
Tu l'aimes beaucoup.
Passionnée de musique hispanophone.
Hispanophone au sens large, exactement. Rosalía, tu l'as découverte à quel moment toi?
Alors je l'ai découverte sur son deuxième album, ouais, qui est El Mal Querer. Et j'ai adoré, enfin, j'ai trouvé ça tellement nouveau sur le marché. Et j'ai continué d'écouter, et elle est revenue après avec Motomami. Elle a fait aussi trois sons avec son ex, Raoult, qui était aussi très cool, en vrai, dans le projet, dans l'idée. Et là, j'ai hâte d'écouter son dernier album qui sort le 7.
Tu l'as dit, tu l'as découverte avec le deuxième album, comme moi aussi. D'ailleurs, je pense comme beaucoup de personnes. Ouais. Mais sur le premier album qui s'appelle Los Angeles, ça ressemblait à ça. Ça, c'est le morceau Catalina, donc, qui est extrait de ce tout premier album, finalement, beaucoup de gens l'ont écouté, mais je pense qu'il y a énormément de personnes qui l'ont découverte avec le deuxième et troisième album, qui n'ont pas forcément fait l'effort d'écouter ce disque, qui est effectivement très flamenco, comme on l'entend. Qu'est-ce qui a fait que Rosalía, justement, elle a un peu dépassé les frontières du flamenco et même de l'Espagne avec le deuxième album? À ton avis, qu'est-ce qui explique son attrait un peu plus international?
Pour moi, en fait, c'est que c'est vrai qu'au premier abord, quand on l'écoute, on se dit, on entend du flamenco. C'est-à-dire que c'est le premier genre qui vient à l'idée, ouais, génial, elle fait du flamenco. Mais quand tu regardes un peu plus, en fait, Rosalía, elle a tout le temps 50 inspirations. C'est-à-dire que plus tu creuses, plus t'en trouves. Je pense à Malamente qui ouvre l'album et qui est juste génial comme son.
Que sur le deuxième album.
Ouais, c'est ça, exactement. Moi, je parle du deuxième album vraiment quand je l'ai découvert, ouais, parce que je pense que c'est sa force que j'ai repérée après aussi, disons. Rien que Malamente, ça sonne très flamenco, mais au final, tu te rends compte qu'il y a aussi des inspis un peu trap avec un piano électrique, sa voix qui revient et comment elle joue aussi avec sa voix, genre sur les contretemps. Il y a aussi un sample à un moment donné de Justin Timberlake, en fait. Enfin, tu vois, t'entends la mélodie, elle a demandé apparemment à Justin Timberlake pour écouter ça. Et en fait, c'est pour moi ça qui fait sa force, c'est qu'il y a une tonne de références et une tonne d'inspiration, et on le voit encore, sur son dernier projet. J'en parle pas maintenant.
On va en parler après. Mais puisque tu viens de citer ce morceau qui est un classique, ouais, on va s'écouter un extrait de Malamente quand même. Cruzando el pasillo. Si vous ne connaissez pas ce morceau, ouais, écoutez-le.
Par pitié.
Ouais. Écoutez-le. Tu viens de dire justement quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'elle mélange plusieurs genres. Bien sûr, la base, c'est le flamenco, on l'entend, elle le revendique, de toute façon, c'est vraiment quelque chose qui fait partie d'elle. Mais elle est à la croisée de plusieurs genres musicaux qui fait, je, pense que c'est quelque chose qui fait qu'en fait n'importe qui peut s'y retrouver un petit peu, c'est-à-dire que quelqu'un qui est fan de rap va se retrouver potentiellement dans la musique de Rosetta, quelqu'un qui est fan de flamenco, oui, quelqu'un qui aime la pop. Est-ce que c'est finalement pas ça sa force, c'est cette manière qu'elle a finalement d'agréger des genres qui finalement peuvent être très différents mais qu'elle réussit à synthétiser au sein de ses albums?
Pour moi, c'est ça sa force, et on le voit d'autant plus qu'elle est tellement forte dans ça que ça lui vaut des critiques en mode d'appropriation culturelle, ouais, etc. Mais au final, quand on regarde le personnage, déjà je trouve qu'elle a toujours beaucoup de respect pour les genres auxquels elle emprunte des choses. Elle cite, et en fait, je me dis parfois c'est une catalane, donc on s'attend quoi à ce qu'elle reprenne le chant du Barça, tu vois. Enfin, sinon, genre elle a le droit d'aller chercher d'autres univers. Et elle le fait très bien, et elle en a pris partout. En Amérique latine, à un moment donné, ça lui avait été aussi reproché. Mais elle est trop forte pour ça, et là, le dernier projet, elle arrive donc avec des influences visiblement plus classiques.
Donc on parle de luxe, là, l'album, ouais, qui sortira demain.
Exactement. Et en fait, j'ai hâte d'écouter, et en fait, ça lui ressemble bien d'aller encore chercher autre chose qui a un peu un lien quand même avec son passé. Parce que je me souviens que même dans El Malquerer, elle avait repris un peu une musique de Chopin à un moment donné, je crois que c'est sur le deuxième son. Enfin, donc il y a des éléments où je me dis ça va me faire penser à cet album-là. Mais je m'attends à encore un pas dépassé avec déjà l'opéra. Quand elle a chanté l'opéra, j'ai eu des émotions, moi, personnellement. Je ne m'attendais pas à ça. Mais je pense que ça fait vraiment, oui, sa force, sa curiosité.
Alors, aujourd'hui, on parle de Rosetta qui donc s'apprête à sortir son quatrième album luxe et qui sera notre invité dans la deuxième partie de l'émission.
À la régulière, sur France Inter, Mehdi Maizi.
Natacha, donc tu es notre invitée, Natacha Nunez, donc tu es journaliste autour, oui, de la musique et du sport, mais aujourd'hui on parle de musique, plutôt de musique. Tu as dit que tu aimais la musique hispanophone au sens large, ouais, c'est vrai qu'on dit, on parle beaucoup de ça, et Rosalie, elle s'inscrit aussi dans un moment où cette musique hispanophone, elle est extrêmement présente. Il y a presque même, on peut presque parler de prise de pouvoir ouais, dans les charts, dans l'influence mondiale. Quand on voit évidemment Bad Bunny qui va être tête d'affiche du prochain Super Bowl, je te vois, pour les gens qui n'ont pas la vie, elle est en train de faire des cœurs là avec ses doigts quand je parle de Bad Bunny, mais qui effectivement s'impose comme une des pop stars les plus importantes du moment. Est-ce qu'on n'est pas aussi dans cette époque là où finalement on a longtemps vu la pop comme quelque chose de très anglo-saxon, voire de très américain, où là c'est l'épicentre de la pop, il est un peu en train de descendre en fait et d'être plutôt autour des communautés hispanophones justement.
Alors, concernant Rosalía, je la mettrais quand même dans une catégorie à part, dans le sens où elle-même récemment, d'ailleurs dans une interview pendant sa promo, elle a dit « Oui, moi, contrairement à Benito, Bad Bunny. »
C'est comme ça qu'on l'appelle.
C'est son prénom.
C'est voilà, son petit prénom.
Je ne vais pas chez lui pour vérifier. Mais oui, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et elle disait « Oui, moi, contrairement à lui, ça m'importe que mon public comprenne ce que je dis. » Et en mode, elle n'est pas à fond, il faut que je chante espagnol. Et son dernier album le prouve, 13 langues, franchement, bah, bravo.
Oui, dans Luxe, elle chante en 13 langues, ouais, différentes. Ça va jusqu'au mandarin, à l'hébreu. Enfin voilà, c'est pas uniquement un album en espagnol.
Mais donc, est-ce qu'on peut encore parler, en tout cas pour ce projet-là, d'artistes hispanophones? Enfin, en fait, il y a plein de choses qui se mélangent. Et contrairement à Bad Bunny, qui est un peu la grosse tête d'affiche latino-américaine, et je dirais même que c'est... J'ai l'impression que c'est même lui, en fait, qui a pris une importance mondiale, plus que la scène latino-américaine dans son ensemble. Parce que lui, ça l'importe, et c'est important pour lui de chanter en espagnol, parce que c'est un message politique aussi pour dire, nous, portoricains, c'est une culture différente, on ne veut pas être annexé à autre chose, là, enfin, aux États-Unis, pardon. Mmh. Et en fait, je les vois vraiment différents, les deux artistes. Et est-ce que ça prend de l'ampleur? Oui, mais ça reste, j'ai l'impression, des phénomènes aussi un peu à part. C'est-à-dire que quand on sort de pays hispanophones, d'Amérique latine, est-ce qu'il y a tant de personnes que ça qui vont aller écouter d'autres artistes? Je ne sais pas pourquoi je pense à Blest, des gens comme ça, je ne sais pas, tu vois.
Mais j'ai quand même l'impression que ces artistes-là sont peut-être plus écoutés qu'avant, en tout, oui, cas, en Europe, même en France. Alors, on a toujours écouté de la musique espagnole, ce n'est pas nouveau, mais quand même le sentiment qu'il y a de plus en plus de soirées qui célèbrent cette musique-là, que même dans les charts, quand on regarde Bad Bunny, alors ce n'est pas Rosalía, bien sûr, on va revenir sur Rosalía, mais qu'il est quand même, il a du succès en France, ouais, beaucoup plus que des artistes américains, par exemple. Donc, il y a quand même quelque chose, j'ai l'impression, qui se passe un petit peu dans le regard du public vis-à-vis de ces musiques-là.
Je suis d'accord avec toi, et c'est pour ça que vraiment, moi, je reviens où, pour moi, il y a un phénomène Bad Bunny, c'est sûr et certain. Mais est-ce qu'il y a un phénomène vraiment global autour de la musique hispanophone? Je sais pas, okay, je serais plus mitigée, en fait, okay, tu vois. Genre, je suis pas encore en train de te dire... Pour moi,
il y a un
vraiment...
mouvement global, ouais, non, c'est pas ton...
C'est en bonne voie, évidemment, je suis trop contente et ça fait super plaisir, mais c'est encore très centré sur Bad Bunny et aussi sur Rosalía dans un autre domaine.
Revenons sur Rosalía, c'est quoi ses influences à Rosalía? Parce que, par exemple, sur l'album, d'ailleurs, elle a eu l'occasion de m'en parler, on écoutera l'interview après, mais j'étais très chanceux, ouais, merci. Mais il y a Björk qui est invitée, par exemple, et on sait que c'est une influence importante pour elle, et je crois que c'est une influence encore encore plus intéressant dans l'album qui va être disponible demain, qui est un album très radical, très intéressant, dans lequel elle tente des choses, comme ce qu'a fait Björk toute sa carrière. Mais c'est quoi les influences de Rosalía, selon toi ?
Bah, en fait, j'ai l'impression qu'elle en a beaucoup, et de ce que j'ai compris de son parcours, elle a étudié vraiment la musique. Enfin, je la vois vraiment comme quelqu'un d'ultra curieux qui se met pas de limites, en fait, et qui va systématiquement aller chercher plein de nouveautés, parce que même Motomami, à un moment donné, tu avais l'impression qu'il y avait un peu des aspects du Japon. Enfin, tu vois, ça va dans toutes les parties du monde. On a parlé de Justin Timberlake tout à l'heure. Évidemment qu'en Amérique latine, elle a aussi beaucoup utilisé les drums, là, du reggaeton. Elle a fait de la bachata, du merengue, voilà. En fait, il n'y a pas de limite. Et là, comme tu dis, elle nous sort, c'est son deuxième... Elle avait déjà fait un son pour la... Enfin, je vais peut-être mal le dire, mais en tout cas pour la protection des saumons,
oui,
animal.
Avec Björk, donc.
Ouais, exactement, avec Björk, excuse-moi.
Non, je t'en prie.
Mais, mais là, ouais, et elle, donc elles refont un son ensemble avec Yves Tumor aussi, qui a son univers aussi. En fait, ouais, j'ai l'impression qu'elle, juste, elle se met aucune barrière. Et je trouve ça très cool et très inspirant, parce qu'en plus de ça, elle porte tout le temps, j'ai l'impression, un message assez féministe. Et dans son dernier projet, justement, elle... Elle met en avant des femmes, si j'ai... Enfin, tu l'as mieux entendu,
oui,
tu sais mieux quoi.
Tu as tout à fait raison, c'est vrai que dans l'album, on peut le dire, puisque là c'est l'album qui va être disponible, mais il y a plusieurs phrases de femmes importantes dans l'histoire de l'humanité qui effectivement sont citées. Donc il y a quelque chose effectivement très centré aussi autour des femmes et de la présence féminine et du divin, bien sûr. C'est un peu, je pense, les deux thèmes globalement, s'il faut aller vite, de l'album, tout à fait.
En tout cas, c'est ce qu'on comprend en ne l'ayant même pas écouté. Et voilà, pour moi, sa force, c'est ça, c'est de ne pas se mettre de barrière et de surpasser à chaque fois, même s'il y a eu des polémiques d'appropriation, etc. Mais je ne vous cache pas que je le ressens aussi un peu comme si c'était parce que c'est une femme, on se permet de beaucoup plus la critiquer. Parce que si je prends un exemple qui me vient en tête, Enrique Iglesias, qui a vraiment fait son succès en Amérique latine, enfin, il est né à Madrid, donc élu, on lui a donné des awards de l'artiste latin, machin, enfin,
oui, sans broncher, mais tu vois. Alors ça, c'est un sujet intéressant. Est-ce que finalement aussi, les gens ne sont peut-être pas plus... regardant sur ce genre de sujet aujourd'hui que dans le passé, puisque même ces questions d'appropriation culturelle, j'ai l'impression que les gens sont plus méfiants et regardants aujourd'hui, parfois pour le meilleur, parfois il y a des questions qui méritent d'être posées, parfois pour le pire aussi sûrement, mais c'est vrai que je pense qu'Enrique, c'était aussi une autre époque où les gens étaient peut-être moins regardants sur ce genre de sujet.
Je suis d'accord. Pour moi, c'est lié. Je suis d'accord pour dire que c'est lié aussi à l'époque. Et j'ai l'impression quand même que le fait d'être une femme t'expose aussi naturellement à beaucoup plus de critiques. Et on va essayer, évidemment, d'aller chercher la petite bête à chaque fois. Mais je trouve qu'elle s'en sort. Pardon, elle s'en sort plutôt bien sur ça. Comme en tout cas quand elle est interrogée sur ça, de toujours prôner un peu une sorte de bienveillance. Voilà quoi, je kiffe des choses et je les fais.
Et puis je crois que, encore plus avec cet album-là, elle a aussi la volonté d'être une artiste très fédératrice et vraiment mondiale. Enfin, elle chante, on le rappelle, en 13 langages différents. Donc plus que jamais, je pense qu'elle veut parler aussi au monde entier.
C'est ce que je ressens aussi. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est là aussi où peut-être tu auras une petite cassure, entre guillemets, genre scène hispanophone. Là, tu as pris le parti d'aller sur 13 langues. Et avec ce message assez universel qui colle aussi avec la DA, je pense, de la religion et de la lumière. On aime tout le monde, etc.
Et alors, sur Motomami, l'album précédent, Rosalía chantait principalement en espagnol. C'est le cas, notamment, sur le morceau Saoko, qu'on va s'écouter tout de suite.
Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi, Saoko. Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko.
Saoko, papi, Saoko.
Saoko, papi, Saoko.
Cuando pone perla en el collar, te pipian diferente, ya no son perla uno. Cuando los cubitos de hielo ya no se guarda hielo, se congela uno. Cuando te de noche en el cielo y se vuelve de día, ya todo eso cambió. Cuando el caballo entra a Troya, tú te confías, te ardió. Uno. Yo soy muy mía, yo me transformo. No mariposa, yo me transformo. Me capto de drag queen, yo me transformo. Lluvia de estrella, yo me transformo. Pasa de vuelta, yo me transformo. Como sex siren, yo me transformo. Me contradigo, yo me transformo. Soy todas las cosas, yo me transformo.
Se me dice que abro el mundo como una nuez. Si me muero, como muero, por la boca, como muere, ve. Sé quién soy, a dónde vaya, nunca se me olvida. Yo manejo, Dios me guía. El loco te loco, bebé. Kim, que cuando te hablo, un bebé. Te voy a contar, bebé. La calle no vida, bebé. Como un papá. borré al bebé. La cerilla que mal bebé. Tu cara, tu mira, bebé. Si te vuelvo a besar, bebé.
A ver si sirven de algo. Caramelos de la boda.
Cierra la pámpara. Nada te puede parar. Cierra la pámpara. Nada te puede parar. Y ya, toca el estilo. Fuck el estilo. Fuck el stylist. Fuck el estilo. De la tijera y ya. Cógela y córtala. 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 Cógela y córtala. Cógela y córtala.
On vient d'écouter Saoko, donc morceau de Rosalía présent sur son dernier album, sûrement un classique, Moto Mami.
France Inter. Mehdi Maizi à la régulière.
Rosalía, je le rappelle, qui sera notre invitée dans quelques minutes. On va pouvoir écouter son interview. Mais en attendant, je suis avec Natacha Núñez, donc journaliste qui spécialisée autour de la musique, qui adore Rosalía, on peut le dire.
Ouais, je l'aime beaucoup.
Mais on aime tous Rosalía.
Elle est très forte.
Oui, on aime. Et qui n'aime pas Rosalía? Et je pense qu'il y a un moment important, c'est son album précédent, Moto Mami, qui a été un vrai choc. C'était aussi, je pense, qui était un album très attendu après le précédent, qui était porté par Malamente. Et Moto Mami, il y a eu vraiment quelque chose aussi où je pense qu'elle a touché d'autres gens. Il y a eu une tournée importante qui s'en est suivie un peu dans le monde entier. Est-ce que c'est là où pour toi elle devient pop, justement, elle commence à être davantage identifiée dans le monde entier, qu'il se passe quelque chose autour d'elle et de sa musique?
Peut-être dans le sens où elle sort vraiment beaucoup plus de sa culture à l'échelle du pays, oui. Disons. Enfin, c'est plus la dominante, j'ai l'impression, sur Moto Mami. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a pas mal de codes du reggaeton dans cet album qui, à ce moment-là, est quand même assez mondial. Ou en tout cas, de toute façon, ça reste une langue, la quatrième, je crois, la plus parlée du monde, l'espagnol. Donc voilà, il y a un côté un peu... Ouais, je pense vraiment que et toute la DA en fait et l'univers autour de l'album l'a aussi aidé à devenir plus une icône pop. Quoi.
Avec plusieurs morceaux évidemment sur l'album et notamment un morceau qui a fait le tour du monde notamment grâce à TikTok, c'est Despecha. C'est extrait donc de Moto Mami, qui est un album qui est souvent vu comme un des classiques des dernières années. Déjà, en tout cas, on en parle beaucoup. Parfois, on le range à côté de Lemonade, de Beyoncé, de Yeezus, de Kanye. C'est un album assez important. Est-ce que pour toi, c'est déjà un classique cet album ou c'est trop tôt?
Non, il est quand même assez mythique. Et en plus, comme j'ai vraiment ma vision centrée dans cet univers-là, où ouais, je vais le mettre quand même. Ouais, quand même, allez.
Est-ce qu'elle a déjà des héritiers? Est-ce que tu vois des artistes, hommes ou femmes d'ailleurs, qui s'inspirent de Rosalía et de ce qu'elle a apporté dans cette espèce de mélange entre tous ces genres très différents?
Alors, je pense que je pourrais t'en trouver si j'avais un peu plus de temps. Là, tout de suite, il n'y a personne qui me vient à l'esprit. Mais je pense que oui, ça reste une source d'inspiration pour toutes les raisons qu'on a citées auparavant.
Comment, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est que finalement quand on écoute Moto Mami, et même l'extrait qu'on vient d'écouter de Specha, c'est quand même de la musique assez radicale. Je trouve que, en tout cas, ça ne correspond pas vraiment au canon un peu historique de ce qu'on attend d'un morceau pop. Il y a vraiment quelque chose de personnel, de challengeant justement. Comment t'expliques son succès aussi important? Parce que pour moi, ça ressemble pas à quelque chose qui peut plaire à tout le monde quand j'entends un morceau comme ça.
Quel morceau?
Despecha, par exemple, même Moto Mami, en fait, j'ai l'impression que ça ressemble pas vraiment au canon d'un morceau de pop tel qu'on l'entend.
Ok, bah, comme c'est du merengue, Despecha, très basse merengue, qui vient de République Dominicaine, si je peux
le parler. Oui, c'est un genre qui vient de Rebdom. Okay.
Ouais, exactement. Mais effectivement, après, comme j'ai un peu le point de vue de quelqu'un qui écoute beaucoup de genres latino,
oui, donc pour ça toi,
reste
c'est
des... En fait, c'est ça, c'est que ça reste des genres communs dans cette sphère-là. Mais je suis d'accord que dans son album, en fait, il y a plein de délires différents, de sons. À un moment donné, elle récite l'alphabet en disant des mots. Enfin, tu vois, il y a plein enfin de petites, ouais, en fait il y a tellement de choses différentes. Mais je pense que ce qui l'aide vraiment beaucoup, c'est aussi tout l'univers visuel qu'elle offre à chaque fois à ses albums. Et je trouve, ouais, depuis El Malquerer, tu vois, ça, c'est...
Complètement.
Il y a tout un travail aussi qui est fait pour qu'on s'intéresse au projet. Et si ce n'est pas via le son, ce sera aussi via tout ce qu'elle propose autour, toute la DA Motomami, enfin...
Et bien sûr, et c'est le cas encore dans une DA très différente sur Lux, donc son quatrième album.
Ouais.
Sur le premier clip du single Bergen, donc le clip est... exceptionnel. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, justement, de ce premier... On rappelle que tu n'as pas, ouais, encore pu écouter l'album, qui sera disponible tout à l'heure, maintenant. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ça, et notamment de l'aspect visuel qu'elle apporte, qui n'a rien à voir, pour le coup, avec l'esthétique de Motomami, qui était très, très différente de ce qu'elle propose ici.
Ouais. Bah, tu passes d'une cover où tu es un peu nu, quoi, et, ouais, d'une cover où tu es couverte, et,
exactement,
tu parles de Dieu. Mais,
Après, elle a toujours parlé de Dieu,
ouais,
mais c'est vrai que pas autant que sur l'album,
en fait,
qui arrive.
C'est que ça ne faisait pas partie forcément de la DA du projet, mais je suis d'accord, par contre, que des références à Dieu, il y en a plein
oui,
dans,
oui,
ses projets, enfin, dans ses sons. Mais oui, alors, Bergen, que dire ? Je me suis dit, en fait, c'est cool, parce que j'ai à la fois le clip et à la fois la chanson. Donc je me demande aussi quelle aurait été mon impression si j'avais pas, si j'avais pas vu le clip en même temps. Maintenant, j'avoue que même si j'avais pas vu le clip, je me dis quand même le moment où elle se met à faire de l'opéra, je me suis dit, enfin vraiment, elle est trop forte. Enfin, en fait, c'est bête, hein, mais je me suis dit, bah ouais, c'est fort parce qu'elle m'a fait ressentir des choses. Enfin, tu vois, j'allais bien dans ma journée, j'étais pas en dépression, et j'entends ça et je me dis, ouais, ça me fait, tu sais, ça fait référence à des émotions. À
ouais,
des...
Ouais.
Enfin, il y a tout un monde, en fait, elle te plonge dedans. Et après, ce qui est super cool, c'est toutes les théories, toutes les choses que tu dis en regardant le clip. Tu regardes une fois, tu dis, ah ouais, ça, référence à ça, référence à ça. Ensuite, tu écoutes aussi ce qui se dit à droite, à gauche pour expliquer le clip. Et il y a tellement de choses. Enfin, c'était ultra intéressant, et c'est là où je trouve que son univers visuel aide beaucoup ses œuvres.
Ouais, c'est important. Et sur scène, justement, est-ce qu'on retrouve cet univers visuel sur scène ? Est-ce que tu as eu déjà l'occasion de la voir ?
Ouais.
Et comment ça se passe, un concert de Rosalía ?
Je l'avais vue, mais en festival à Lollapalooza, donc c'était même ce qui clôturait en fait sa tournée.
Okay.
C'était assez impressionnant. Parce que j'avais pas de... Enfin, les artistes que j'aime beaucoup sont pas forcément les meilleurs en show toujours. Et elle était... Enfin, c'était trop fort. Je sais pas dire d'autres mots que... Enfin, c'était trop fort. Elle danse, elle chante super bien. Sa voix, on n'a pas encore vraiment parlé dessus, mais elle a une super belle voix.
Elle le montre avec Bergen, pour le coup. Comme tu dis, elle fait de l'opéra. On voit que c'est une chanteuse assez, assez versatile, justement, qui fait des choses très différentes.
Et même dans ses autres albums, elle en joue parfois, où elle va aller dans les plus aigus, dans les plus graves. Et elle a une très très belle voix, et en live, c'était aussi très beau à voir. Elle essaye d'avoir des interactions avec son public aussi, c'est sympa. Et je trouve qu'elle a ce côté un peu aussi... nature peinture, enfin je sais pas comment expliquer,
ouais,
mais quand tu la vois poster sur Insta ou des choses comme ça, il y a un truc un peu de vite fait et tout, mais qui est plaisant en fait. Tu peux te reconnaître dans ça et tu peux, enfin voilà. Et en show, vraiment, j'ai malheureusement pas vu son Bercy, j'en ai entendu que du bien, mais ça aurait été, enfin.
Mais ce que tu décris justement sur le côté nature peinture, est-ce que c'est pas ça maintenant les pop stars? Moi j'ai l'impression que c'est ça.
Ah ouais.
J'ai l'impression qu'il se passe un peu quelque chose comme ça avec des gens qui sont peut-être un peu plus proches, tu sais, qui correspondent un peu moins au code, qui sont peut-être un peu moins lisses parfois aussi. Mmh. J'ai le sentiment qu'elle s'inscrit aussi dans une forme de nouvelles tendances, de stars qui sont un peu différentes de celles qu'on avait avant. Et je trouve ça assez excitant pour le coup d'avoir des artistes comme ça.
J'avoue que elle, peut-être que je m'en rends pas compte, ou j'ai pas les mêmes pop stars que toi en tête, mais je la trouve quand même
plus naturelle que les autres, plus instinctive.
En fait, ouais, plus instinctive, je sais même pas si c'est le mot, parce que je pense quand même qu'il y a un moment donné, quand t'es comme ça suivi par des millions de gens, tu réfléchis à ce que tu fais, tu vois. Mais elle hésite pas. Autant elle peut poster des trucs ultra. Je sais pas, ultra travaillé, etc., en termes même de photographe et tout, autant ça va être une photo à l'iPhone, limite pixelisée, tu vois ce que je veux dire, et sans maquillage, elle mêle bien les deux, en fait, et je me dis, c'est des énergies en tant que femme que tu peux ressentir, dans les deux cas, tu vois, tu peux autant avoir la flemme que vouloir te mettre au max, et voilà, mais je la trouve, plus dans vouloir montrer aussi le côté un peu plus naturel, tu vois. Là où d'autres pop stars, peut-être qu'elles le sont en soi, elles sont peut-être même plus simples, je ne les connais pas, mais ça a l'air toujours très travaillé.
Tu as dit ce qu'on peut ressentir en tant que femme. Est-ce que, pour toi, c'est une icône féministe aujourd'hui, Rosalía ?
Alors, est-ce qu'elle l'est à date ? En fait, j'aurais tendance à dire que oui, quand même, parce qu'elle a, elle a quand même pris plusieurs fois la parole pour, même quand elle était dans ses relations, pour parler un peu de féminisme, de masculinité. Là, on l'a revu dire, j'ai plus foi en la masculinité, qui faisait référence à son interview avec Raoult et tout. Enfin bref, mais ouais, je pense quand même qu'elle
porte Raoult, qui est son ex, ancien, voilà,
qui est chanteur aussi de Porto Rico.
Ouais.
Et ouais, je trouve qu'elle a cette énergie. Enfin, elle a cette énergie, cette volonté. Et je me permets aussi de le dire là, parce que on sait que dans Lux, elle va aussi mettre plusieurs femmes en avant, que c'était sa volonté. Et j'ai l'impression que ça vient quand même à la base toujours de quelque chose qu'elle ressent, de j'ai perdu foi en ça, donc voilà, je me retourne vers ça. Enfin, et ouais, je la vois comme une féministe et comme une icône.
Alors, on l'a dit, il y a Björk et Yves Tumor qui sont amants sur le premier extrait Bargain. Elle a fait quelques collaborations. Est-ce que toi, tu as une collaboration favorite de Rosalía dans les quelques collaborations qu'elle a pu faire? Je te prends comme ça au dépourvu.
Ah, tiens, tu sais quoi? Oui, j'aime beaucoup ses sons avec Tokisha, qui est une artiste dominicaine.
Okay.
Et il y en a deux, la combi Versace et Linda. Et les deux sont très bien. Je sais pas si...
Non, mais ça m'intéressait.
Ah, ok, d'accord.
Parce que moi,
ça y est, musique.
Alors,
mais non.
Oui, musique, mais moi, j'ai choisi autre chose, mais je suis beaucoup moins pointu que toi. Je veux juste qu'on écoute un extrait de son feat avec Bad Bunny, La Noche. Ah. La Noche, voilà, juste ça.
Cœur.
Esperando y dándole sin parar. Tú encima de mí, yo encima de ti.
Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Solo dándole sin parar. Yo encima de ti, tú encima de mí. Que yo me iría otra vez pa' Japón.
Hey.
Papi, qué penita tú, qué maldición. La paleta dulce, azúcar de algodón.
Yeah.
Y es la única que me llega hasta el corazón.
Ça, c'est un morceau qui date de 2020. Donc,
quand ils se sont unis pour ce son, oh là là.
C'était un événement.
Ouais, c'était papa et maman qui. Enfin, tu vois. Non, franchement, c'était une dinguerie. Après, ils étaient. En plus, c'était même pas les stars encore plus mondiales qui sont aujourd'hui.
Ouais.
Mais vraiment, c'était un feat que t'avais envie d'entendre, que t'attendais.
Ouais, complètement.
Et franchement, ils faisaient très bien le taf.
Bon. Natacha, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup infiniment d'être venue pour nous éclairer un peu plus sur Rosalía, qui sort donc son 4e album tout à l'heure à minuit, on peut le dire. Voilà, on va bientôt pouvoir toutes et tous l'écouter. En attendant, on va s'écouter une autre belle collaboration de Rosalía. C'est le morceau La Fama avec The Weeknd, que j'adore, avec un clip extraordinaire. The Weeknd en bonnet, là, j'adore. Et puis juste après ce morceau, on écoutera l'interview de Rosalía. On s'écoute ça, La Fama, Rosalía, The Weeknd. Merci beaucoup, Natacha.
Merci à vous.
Lo que pasó, a ti te lo cuento. No creas que no dolió o que me lo inventó. Así es que se dio. Yo tenía mi bebé, era algo bien especial. Pero me obsesioné con algo que a él le hacía mal. Canciones en mi mente y él me lo notaba. Y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada.
Es mal amante la fama, no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene se te va. Será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve. Siempre quiere más, puñaladita. Está su ambición en el pecho afilada. Es lo peor.
Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré.
manera de que esta obsesión se me fuera y ya desaparezca. Yo aún no aprendí la manera.
No hay manera que desaparezca.
D'écouter La Fama, morceau de Rosalía et de The Weeknd, extrait donc de Moto Mami, Rosalía, qu'on a tout de suite en interview.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Tu me vois là, c'est bon?
You clap better than me.
No!
Rosalía, how are you? Rosalía, comment ça va?
I'm good, thank you.
Bah, ça va, merci.
Écoute, moi ça va super bien, je suis très heureux de te rencontrer et tu sors un nouvel album. Yo. Et c'est vraiment quelque chose. Pour moi, il est vraiment différent de ce que tu as fait avant. Pour commencer, je dirais que l'album est structuré comme une œuvre de musique classique. Est-ce que c'est ce que tu voulais faire et quelles ont été tes influences sur cet album?
So I had in mind classical music.
Ce que j'avais à l'esprit, c'était effectivement de la musique classique. Lorsque j'ai travaillé pendant tout ce processus, j'ai écouté beaucoup de classiques. Et ça me fait plaisir que tu dises ça, parce qu'il y a quatre mouvements en fait dans l'album.
So I could build it.
Et au plan interne, pour moi en tout cas, ça a été très utile, ça m'a aidé à construire l'album, cette structure. Il y a un premier mouvement qui parle surtout de la pureté et l'absence de pureté, ensuite c'est plutôt la gravité, être ami avec le reste du monde. Après, le troisième volet, c'est plus la grâce, l'amitié avec Dieu. Et la dernière partie, c'est dire au revoir et le retour. Parfois aussi.
Tu viens d'évoquer la présence de Dieu dans cet album et la spiritualité. C'est pas nouveau, t'as toujours parlé de spiritualité, de ta relation à Dieu, mais j'ai l'impression que dans cet album, c'est encore plus présent. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? C'est vrai que le monde traverse une période d'obscurité et beaucoup de gens se rapprochent de Dieu, c'est une vraie tendance. Qu'en est-il de toi? Tu te sentais comment et pourquoi est-ce encore plus présent dans ce nouvel album?
I agree with you that
Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que, en tout cas pour moi, au plan personnel, ce que je ressens, c'est que j'ai besoin de davantage de lumière. Et je pense qu'il y a de la place, en fait, pour plus de lumière. Il faut qu'il y ait plus de lumière. Et je pense qu'il y a de la place pour de l'unité, beaucoup plus de place pour l'unité, pour la division. Union plutôt que division, lumière plutôt qu'obscurité. C'est un besoin, et c'est un besoin personnel en tout cas. C'est-à-dire que moi j'ai ressenti le besoin de lire davantage, d'étudier davantage, de mieux comprendre les autres. Et j'ai essayé d'apprendre sur les autres cultures. En plus, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, connaître les autres types de musique, apprendre d'autres langues aussi. C'est cet amour, cette volonté de comprendre l'autre, de comprendre vraiment ce que fait la personne qui est différente de moi. C'est cette volonté qui est présente en moi. Et c'est vraiment à partir de ça que j'ai travaillé, c'est à partir de ce besoin que j'ai, ce désir.
You just mentioned something interesting because you said like you wanted to learn.
Je viens de dire une chose intéressante, à savoir que tu avais envie d'apprendre d'autres langues. C'est une information importante pour cet album, sachant que tu y parles en 13 langues différentes. Alors, tu les as toutes apprises ou est-ce que tu t'es faite aider pour trouver des rimes, par exemple? Parce que, par exemple, quand tu chantes en français, ce n'est pas juste du texte en français, il y a des rimes. Est-ce que tu peux nous parler du processus?
Alors, il n'y a pas d'intelligence artificielle, par exemple. Pas du tout. C'est vraiment un album purement humain qui a été fait de manière purement humaine, je dirais. Il y a beaucoup d'instruments acoustiques. C'est un album, en fait, ou un projet orchestral. En tout cas, c'était mon intention. Et par rapport à l'écriture, ce que je veux dire, c'est que la participation de d'autres personnes à l'écriture, c'est quelque chose d'anecdotique. On prend par exemple le titre Jeanne. J'ai eu beaucoup de chance. Il se trouve que Charlotte Gainsbourg a accepté de lire deux lignes pour ce titre. Alors, le titre Sauvignon Blanc, ça vient du producteur de Dream, qui l'a écrit en studio. Ça lui est venu comme ça, il était en train d'improviser, tout à coup il a dit Sauvignon Blanc, et c'est resté. C'est le seul titre qui est vraiment trouvé par quelqu'un d'autre, en fait. Il y a l'autre titre qui s'appelle Memoria, qui a été écrit complètement par Carminho, et puis il y a aussi les deux lignes qui ont été chantées par Björk, c'est tout. Pour le reste, c'est quoi? C'est un an d'isolement complet. J'ai décidé que j'allais lire, écrire. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu faire une vraie navette, envoyer des propositions. Je demandais à quelqu'un comment est-ce que je peux dire ça en japonais, comment est-ce qu'on dit ça en allemand. J'ai écrit donc à des gens, des traducteurs par exemple, qui ont retraduit ce que j'avais à l'esprit, m'ont renvoyé les textes. Et donc après, j'ai parfois complètement tout réécrit. Et jusqu'au moment où j'ai trouvé le juste mot, j'ai dit bon, maintenant il faut trouver la rime. Je change ceci, je change cela. Donc ça a été un peu un puzzle, en fait. Peut-être le puzzle le plus difficile que j'ai fait de toute ma vie. C'était vraiment hyper compliqué. Pendant deux ans, je suis restée au même endroit. Et au mur, j'ai mis une carte. Et à ce moment-là, j'ai épinglé des lieux et j'ai mis des fils entre ces lieux et j'ai essayé d'établir une liste de saints de différentes traditions dans le monde. J'ai lu des hagiographies, des vies de saints, des histoires de différents saints, ici et là. Puis après, il y a la question des langues qui allaient avec le lieu où c'était. Je me suis dit, comment est-ce que je peux mettre en connexion toutes ces histoires, ces lieux, ces personnes, tout ce contexte culturel, cette langue-là, tous ces éléments-là. J'ai essayé d'en faire quelque chose qui avait du sens. Ça a été vraiment super difficile, mais j'aime bien les défis, moi.
Tu as mentionné Björk, elle est sur l'album, et quand on parle de pop star, Björk, c'est une légende, une star, et aussi elle évoque quelque chose de mystérieux. Et tu parlais de puzzle, c'est vrai que ces albums sont tous, alors je dirais pas compliqués, parce que c'est pas le bon mot, mais plutôt complexes. Et tu sembles avoir une vraie relation avec elle, vous avez déjà collaboré dans le passé. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, et pourquoi était-ce important qu'elle soit sur cet album?
She is such a reference for me.
C'est une référence absolue pour moi.
She's reference. She's like
c'est une mère, c'est la référence, c'est le phare.
In French, yeah.
Right?
El faro. Le phare.
Como que uno sabe que
et on sait qu'il y a ce phare et qui nous guide, il y a de la lumière. Il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui parce qu'elle a fait les albums qu'elle a fait en termes de musique. C'est dire à quel point elle a contribué à la musique, les apports qu'elle représente pour la musique. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai osé lui envoyer le titre Bergen. Et au début, j'étais super nerveuse en me disant, voilà, si elle dit non et qu'elle ne veut pas collaborer, ça veut peut-être dire que je suis à côté. Me suis trompée et tout. Et puis je me suis dit, ça veut peut-être dire que je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire avec ce projet. Par contre, si elle dit oui, ça pourrait peut-être vouloir dire qu'effectivement, j'ai réussi à concrétiser en fait cette intuition, puis ce rêve aussi que j'avais vers cet album-là. Et elle a dit oui. Elle a écrit quelque chose de magnifique. C'est comme si elle séparait les flots, séparait les eaux, enfin sa voix, elle sépare les choses, c'est fou. J'étais dingue quand elle a accepté. Voilà.
Tout de suite, on va écouter ce qui a été le premier single de ce nouvel album, Lux. Le morceau s'appelle Bergen, et c'est en featuring avec Björk et Yves Tumor.
Musique. you till you love me. I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. 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 Till you love me.
On vient d'écouter Bergain, premier extrait, premier single de ce quatrième album Luxe en feat avec Björk et If You More, et on poursuit tout de suite la discussion avec Rosella qui est notre invitée aujourd'hui.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Pour moi, c'est encore plus intéressant que Björk soit sur cet album parce que lorsqu'on parle de musique pop, et je sais pas si c'est comme ça que tu te vois, mais t'es une pop star.
I love that you say that, yes. Okay.
Ah bah j'adore, c'est sympa de le dire.
My sister said that I don't do pop.
Mais ça me fait plaisir parce qu'effectivement, je fais de la pop.
Mais,
faut noter.
C'est un album qu'on n'aborde pas si facilement, comme un album de Björk ou des Pink Floyd par exemple. Bien sûr, tu peux avoir des hits sur cet album, mais c'est pas des hits comme ceux dont on a l'habitude. Tu voulais surprendre les gens ou pas vraiment? En tout cas, j'ai le sentiment que sur ce disque, c'est différent, que c'est pas un album de pop classique.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Ouais,
je sais, c'est pas évident parce que c'est difficile pour moi de dire c'est quel style en fait. C'est de la pop, autre chose. En fait, moi, ce que je voulais faire, c'était un album orchestral. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Déjà au collège, j'ai toujours étudié la musique, j'ai étudié le chant flamenco traditionnel, de sorte que au collège, j'ai eu la chance en plus d'être entourée par des musiciens, des gens qui étudiaient la musique classique, d'autres qui étudiaient d'autres genres musicaux, pour dire que c'est quelque chose qui a toujours été présent en fait. Par exemple, j'aime le son de farod, moi par exemple. J'aime le son d'une harpe, j'aime le son du corps aussi, j'aime tout ça. Et donc, il y a eu un moment où j'ai eu envie de faire cette expérience, et c'était maintenant. Je pense qu'en fait, on ne peut pas forcément choisir quand on fait un album avec ce type de paroles. Ce que j'ai choisi, moi, vraiment consciemment, c'est de faire un album avec ce type d'instrumentation, ces types de sons. Par contre, je pense que pour ce qui est des paroles, c'est venu tout seul. Là, on ne peut pas forcer ça. Ce type de paroles, ça vient ou ça ne vient pas. J'aurais bien aimé d'ailleurs les faire plus tôt. Mais avant, mon écriture n'était pas là. Sur Motomami, par exemple, j'en étais pas là. Là, j'ai eu envie de m'amuser, d'inventer des mots, tout en restant très sérieuse dans ce que je fais. Enfin, je suis musicienne. Donc, je prends les choses très au sérieux. Et cette fois-ci, je me suis dit, comment est-ce que je peux écrire des choses qui vont être quelque chose qui marque un vrai tournant? Une écriture où, dans 20 ans, je pourrais me dire, bon, pas trop mal ce que j'ai fait à l'époque.
Just previously, you mentioned AI, you say...
Tout à l'heure, tu parlais de l'intelligence artificielle, et il n'y en a pas sur l'album, mais tu as un titre qui parle d'un robot sexuel. C'est pas de l'IA, mais bon, c'est pas très loin. Et je trouve que c'est un titre marrant, sympa, mais qui fait peur aussi, parce qu'il peut aussi représenter ta vision de l'amour ou du sexe dans le futur. À part le côté marrant, c'est quoi le message derrière ce titre?
Franchement, moi, j'aime pas tellement penser en termes de message quand je fais un titre. Parce qu'en fait, ça m'appartient pas à moi. C'est pas à moi de décider quel est le message, en fait. C'est des choses que j'ai déjà dites et j'en suis vraiment convaincue. Je pense que celui, celle qui écoute est coproducteur ou coproductrice. C'est-à-dire que la personne qui écoute, si elle y met l'effort, si elle se concentre suffisamment, il va y avoir une vraie expérience qui va être vécue, et à ce moment-là, la personne va trouver dans la chanson ce qu'elle a besoin de trouver. Après, il n'y a pas un message en particulier qui est à trouver. Chaque personne trouve ce qu'elle a trouvé. En revanche, ce dont je peux parler, c'est l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai fait tout ça. Je me souviens, j'avais vu aux infos un endroit où il y avait des femmes robots quelque part, et c'était plutôt sombre, assez glauque.
For some reason, I was like a little bit like.
J'étais pas super à l'aise avec cette idée de femme robot. Kind of like ça m'a un peu gênée. Je sais pas trop quoi en penser en fait.
And I wrote this song.
Et à ce moment-là, j'ai commencé à me dire voilà ce que je ressens en fait vraiment. Et c'est à ce moment-là que j'ai écrit cette chanson.
Two stories that.
Et après, il y a une deuxième inspiration par rapport à ce titre, donc une autre histoire, donc qui m'a aussi pas mal inspirée à ce moment-là. J'avais lu quelque chose, l'histoire d'une femme sunwaise, je crois.
Very important. That she,
qui est une femme qui a décidé en fait de se défigurer pour pouvoir voyager tranquillement en toute sécurité.
Also, la histoire de Miriam.
Et puis il y a aussi l'histoire de Myriam. Alors c'est une femme très importante dans le judaïsme, Myriam. C'était une rebelle, elle a emmené toute une quantité de gens qui l'ont suivie dans cette rébellion. Elle a représenté pour moi ce côté rebelle. C'était important. Elle a représenté aussi cette audace qu'elle avait. Donc j'avais ces femmes à l'esprit et c'est là que j'ai essayé de faire une chanson audacieuse justement.
Hopefully with some sense of humour.
Avec de l'humour, enfin, en tout cas, c'était l'idée. Même chose avec Dieu est un stalker. Il y avait cette idée d'humour qui doit être présente là aussi. Et dans Dieu est un stalker, pourquoi est-ce qu'il y a de l'humour? Parce qu'en fait, j'ai essayé de me placer du point de vue de Dieu. Je parle à la première personne comme si j'étais Dieu, qui est absolument absurde, c'est impossible. Et puisque c'est impossible, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de mettre ça sur ton humour, parce que je sais que c'est un exercice qui est absurde de toute façon.
Dans l'album, tu explores de nombreux sujets, bien sûr, et je sais pas si j'ai raison, mais j'ai eu le sentiment que peut-être il y avait un conflit intérieur dans l'album, parce que tu abordes pas mal de choses qui peuvent être dures, les départs, les désillusions, la guerre dans le monde, etc. Et je me suis dit, est-ce qu'elle a trouvé la paix? Est-elle en paix après cet album?
Did she find peace? Is she at peace now after this album?
Ah, that's a great question.
Super question.
I think...
Je pense que je suis plus détendue. Je me sens plus libre, plus à l'aise sans doute, en tant qu'artiste. Après, en tant que personne, je suis heureuse que ces trois dernières années, j'ai prié beaucoup plus que c'était le cas précédemment. Je prie régulièrement et j'ai fait beaucoup de lectures aussi. J'ai lu beaucoup de choses qui m'ont aidé à me recentrer. Mais... je pense quand même que j'ai encore un petit peu trop de désir en moi pour avoir trouvé suffisamment la paix.
Tu penses que le désir peut...
Le désir, d'abord, ça peut être tout et n'importe quoi. On peut désirer une seule chose ou telle chose. Et je pense que vraiment, je suis un peu trop présente dans le monde encore aujourd'hui. J'adore encore aujourd'hui porter... une bague.
Et tu en parles, je crois, dans Souvignon Blanc, de rejeter le luxe pour avoir des choses plus simples dans ta vie. C'est l'un des thèmes de l'album.
Le détachement. Apprendre le détachement, c'est important, parce que je trouve que j'ai encore beaucoup à apprendre par rapport à ça. Et quand j'ai fait cet album, il y a des choses que j'ai comprises. Par exemple, la sainteté, ça veut dire plein de choses différentes. Selon les cultures, dans le bouddhisme, par exemple, on parle des huit préoccupations mondaines, principes bouddhistes, et c'est très intéressant de chercher à comprendre tout ça, c'est-à-dire se dire, je suis en train d'étudier toutes ces choses-là, je comprends ce qui est expliqué, avec ses principes, hein. mais pourtant, je continue à avoir beaucoup besoin de toutes ces préoccupations mondaines. Ces huit motivations mondaines, elles sont encore très présentes dans ma vie. Alors, comment est-ce que je peux m'améliorer petit à petit? Comment est-ce que je peux changer les choses tranquillement? Parce qu'on vit tous avec de la contradiction. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde qui est imparfait. La seule chose qui est parfaite, c'est le divin. C'est pas ici. Donc je me dis, bon, bah voilà, il faut que j'apprenne petit à petit, jour après jour, faire les choses un peu mieux. Et il faut que je progresse à petits pas. Et c'est ça qui m'inspire dans ce que je fais. Puis il y a des femmes aussi. Les femmes m'inspirent, des femmes qui ont su vivre leur vie de manière tout à fait non conventionnelle à certaines époques. Ça, c'est des gens qui m'inspirent aussi.
I see so much people referencing.
Et je pense que maintenant, bah, je vois tellement de gens qui se comparent aux célébrités. Puis après, il y a les célébrités qui vont, elles aussi, se comparer à d'autres célébrités. Je me dis, mais il doit y avoir autre chose, quand même. En tout cas, pour moi, il y a tellement, par exemple, de gens qui ont écrit, d'écrivains, d'écrivaines, des gens sublimes, qui ont fait des choses magnifiques. Je n'ai pas l'impression d'inventer la roue. Hein. Simplement, je mets un peu la lumière sur des choses et des gens magnifiques, des femmes en particulier magnifiques, des poétesses. Parfois, c'était des nonnes ou d'autres femmes qui ont écrit des choses magnifiques. On prend Vimala, par exemple, elle était prostituée et elle a complètement changé sa manière de vivre et elle est devenue sainte. Elle fait partie de la tradition Terigata. C'est une femme qui a écrit des choses magnifiques avant de devenir une religieuse. Bon, ça, c'est des femmes qui peuvent m'inspirer pour dire il y a tellement de façons d'aborder la sainteté, des façons différentes de celles qu'on entend évoquer le plus souvent ici.
I think maybe one last question because a lot of other people
peut-être
want to talk to
une dernière question.
But we're in France, and in France, we love Jul.
On est en France et en France, on adore Jul.
J-U-L, you know, the rapper.
Jul.
We found out that you love Jul too.
Yeah, Jul, Jul.
Oui, et on a réalisé que toi aussi, tu l'aimais.
Ah oui, Jul. It's
great, Instagram story about you.
Je l'adore. Tu excellent ce qu'il fait.
Tu avais repris la chanson Toto et Nineta sur les réseaux. Pourquoi tu aimes Jul? Pour nous, c'est évident, mais pourquoi tu l'aimes, toi?
Jul, you sound good. You sound good.
Mais Jul, parce que c'est excellent.
I thought the melody was so good.
Tellement bon ce qu'il fait, j'adore.
I love the riff of the song.
Et la mélodie sur ce titre est excellente. J'ai adoré le riff sur le titre aussi. Excellent. Et le rythme, le beat. La voix aussi. Par rapport à la mélodie qu'il a choisie.
The rhythm, everything.
Tout le rythme, c'est excellent.
I think that's crazy and great that you say that because you're...
C'est important que toi, tu le dises parce que tu es artiste très reconnu, Jul est très reconnu en France, mais il peut y avoir des personnes qui justement ne se rendent pas compte à quel point c'est bien écrit, à quel point c'est bien produit. Je pense que le fait que toi tu le dises, ça veut dire quelque chose.
Pour moi, quand il y a quelque chose d'urgent et que c'est fait et que c'est cool, ça veut dire que c'est bon. Et c'est ce que j'ai me suis dit quand je l'ai entendu. C'est pour ça que je l'ai mis sur TikTok d'ailleurs, parce que c'est un titre que j'écoutais en boucle à la salle de sport. C'est hypnotique quasiment ce titre. J'adore.
Yeah.
Thank you very much for your time.
No, thanks to you.
Thank you.
Thanks to you.
C'est ainsi que se conclut cette discussion avec Rosalea qui s'apprête à sortir son 4e album Luxe à minuit. Il est disponible sur toutes les plateformes. Merci également à Natacha Nunez qui est venue en première partie d'émission pour nous éclairer un petit peu sur le parcours de Rosalea. Et merci aux personnes qui ont préparé cette émission, Alexia Lacour et Redouane Tella. Une émission réalisée par Gaëtan Colli. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert et Juliette L'Orphelin. À la technique ce soir, c'était Aymeric Lemaître, Thomas Robin, Ralph Yanko et Marie Potier. Merci énormément à Hélène Joguet pour la traduction de l'interview de Rosalea. Merci aux équipes web et vidéo. Pour découvrir ou redécouvrir nos émissions, abonnez-vous sur l'application Radio France.